Donc bonsoir, bon après-midi à tous. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est l'évaluation du sulfate de morphine en médicament de substitution. Alors on ne va pas s'étendre sur cet aspect puisqu'il a été évoqué jusqu'à présent. Donc les traitements de substitution se conçoivent avec la prise en charge globale, incluant un médicament, mais une prise en charge multidisciplinaire des patients dépendants aux opiacés. Et donc cette prise en charge inclut la prise par le patient d'un médicament de substitution. Comme on l'avait eu aussi en début de séance, on ne revient pas sur l'intérêt majeur de ces traitements de substitution, donc incluant le médicament, sur les bénéfices apportés en termes de mortalité. Donc plusieurs médicaments agonistes opiacés pourraient répondre à un objectif de substitution. Et donc aujourd'hui, début de 21e siècle, on a plusieurs médicaments disponibles. Donc la référence reste la méthadone, donc un agoniste des récepteurs opiacés utilisé depuis les années 60 avec une AMM obtenue en France en 1995. Alors, de façon parallèle ou successive, d'autres médicaments ont été identifiés, évalués et retenus comme étant des candidats potentiels à la substitution aux opiacés. Donc la buprénorphine, donc un agoniste partiel des récepteurs mu, qui a eu une AMM en France en 1996 et qui s'est répandue successivement dans d'autres pays. La méthadone à longue durée d'action, qui a eu une courte durée de vie en raison d'un rapport bénéfice-risque défavorable pour des problèmes cardiaques. Donc l'héroïne, qui est un agoniste, bien entendu. La codéine ou la dihydrocodéine. Et puis la morphine, avec un focus particulier sur la morphine par voie orale, et en particulier les sels de morphine à libération prolongée. Donc avec des médicaments en France comme le Skénan et le Moscontin qui ont été utilisés ou qui sont utilisés comme médicaments de substitution, ou d'autres sulfates de morphine qui ont une AMM dans certains pays, avec par exemple le Subutil en Autriche. Alors, pour quelles raisons nous avons choisi ou décidé à un moment de faire une revue systématique de l'intérêt clinique du sulfate de morphine dans la substitution? Eh bien, plusieurs questions pouvaient se poser. D'abord, le cadre réglementaire en France. Il est fondé sur une note émise par la DGS en 1996, donc une note, pas une circulaire, ni un décret, ni un arrêté, donc une lettre fixant une dérogation obtenue pour un patient donné auprès d'un médecin conseil de l'assurance maladie, donc de sa zone géographique, pour pouvoir prescrire et faire délivrer et prise en charge par l'assurance maladie en cas d'échec ou d'intolérance aux autres médicaments de substitution. Et notamment, dans cette note était prévu le cas particulier de la grossesse. Le problème, c'est que cette note ne permettait pas d'avoir un cadre réglementaire suffisamment précis et d'avoir des recommandations spécifiques à l'utilisation ou au recours à cette dérogation. Et donc, à partir de conditions assez floues, on s'est retrouvé dans certaines régions avec des pratiques relativement hétérogènes, souvent soumises à la sensibilité ou à l'intérêt du médecin conseil pouvant délivrer l'autorisation de prescription. Donc, à partir de ces questions, est-ce qu'on peut avoir des données sur un intérêt de la morphine par voie orale pour une prise en charge dans le cadre d'un traitement de substitution aux opiacés? Donc on a essayé de réaliser une revue systématique de la littérature, quelque chose d'assez classique, en essayant d'identifier toutes les études disponibles, publiées, ou en tout cas accessibles par des moyens directs ou indirects, en focalisant sur des populations de sujets adultes avec une pharmacodépendance aux opiacés et en choisissant de ne pas inclure la population spécifique des femmes enceintes puisque c'était pour une substitution, en tout cas temporaire, le temps de la grossesse. Donc nous nous sommes intéressés à toutes les études pouvant faire l'objet, enfin qui avaient envisagé la morphine comme médicament dans le cadre d'un traitement de substitution, et au travers des différentes études, on s'est attaché à relever des critères de jugement qui étaient disponibles, en choisissant un critère principal qui était la rétention sous traitement, quelque chose qu'on pouvait retrouver assez facilement dans la plupart des études, et des critères secondaires variables par leur présence dans les différentes études en termes de qualité de vie, de signalement de symptômes de manque, de comportement de recherche de produits et des effets indésirables. Alors, notre stratégie de recherche bibliographique, vous avez ici l'extrait de l'article qu'on a publié en début d'année, donc on a assez classiquement recherché les données dans Medline. On a aussi recherché de façon très large avec le terme morphine simple dans la base de données Cochrane. Nous avons interrogé les sites d'enregistrement des essais cliniques, le NIDA, enfin tout. Nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible avec le mot-clé « morphine » pour essayer d'identifier des études publiées ou en cours que l'on pouvait identifier comme étant réalisées. Donc cette requête qui s'est arrêtée, puisqu'on arrête toujours de chercher à un moment donné, donc qui s'est arrêtée en fin d'année 2009, nous avait permis de recueillir pas mal de signaux de publication intéressantes. Donc on est parti environ d'un petit peu plus de 1000 signalements dans la littérature d'articles faisant référence à la morphine. Donc on en a enlevé un certain nombre qui étaient des duplications, mais pas beaucoup. Et puis, en lisant le titre ou le résumé, on a retenu successivement différentes études pour, in fine, lire intégralement 33 articles avec la récupération pour l'intérêt qui était celui de la question qu'on se posait de 13 articles différents que nous avons donc inclus dans la synthèse. Donc les autres articles que nous n'avions pas retenus envisageaient la morphine dans des procédures de détoxification, dans la prise en charge du syndrome de sevrage néonatal, dans des études cliniques qui envisageaient des effets pharmacodynamiques de la morphine, et puis aussi des études pour lesquelles on ne pouvait pas retrouver d'informations suffisamment utiles à la réalisation de la synthèse. Donc vous avez ici les différentes études que nous avons identifiées, donc 13 en tout, et certaines étaient une même étude produisant deux publications différentes. Donc la première étude, et c'est le seul essai clinique randomisé sur la question que nous avons pu retrouver dans la littérature, c'était en fait une étude en crossover comparée à la méthadone avec la recherche de syndrome de sevrage et d'effets indésirables immédiats après la prise des produits. Le deuxième type d'étude était un essai clinique avec donc un groupe témoin, donc un essai comparatif, mais sans randomisation pour la comparabilité des groupes, et trois publications différentes, donc avec le même jeu de données comme dans le premier cas. Ensuite, cinq études différentes, donc des études de cohorte non comparatives, donc prospectives mais sans groupe témoin, avec des durées variables d'observation. Et enfin, donc deux études correspondant à trois articles différents, mais deux articles avec le même jeu de données, avec une étude transversale, donc purement descriptive. Donc, après ce premier constat, donc peu d'études disponibles déjà, donc 13 publications, mais en tout 9 études avec des données différentes, et pour l'ensemble de ces études, un niveau de preuve modeste, enfin, niveau de preuve modeste, c'est un élément que l'on peut trouver, que l'on peut juger difficile, mais un seul essai clinique avec randomisation, et en tout, deux études comparatives seulement. Alors, bien entendu, malgré ces limites, on a essayé de faire une synthèse au moins qualitative des résultats. Donc, d'abord, le critère de jugement principal qui était la rétention dans le traitement de substitution. Eh bien, globalement, avec des études de taille variable, donc allant de 20 à 110 sujets, donc des comparaisons pour l'essai clinique randomisé avec la méthadone, mais une courte durée d'observation, puisque c'est un essai en crossover, et donc les patients ont été exposés successivement à la morphine ou à la méthadone, donc un essai de 7 semaines, l'étude la plus longue étant de 6 mois, mais dans une étude non comparative. Donc vous voyez des résultats en termes de rétention qui sont très élevés, très positifs, puisqu'ils oscillent entre 80 et 95% de rétention à 6 mois pour l'étude numéro 12. En dehors de ça, cette étude assez courte de cette semaine, avec un taux de rétention assez faible, à moins de 50%, mais c'est un petit peu l'anomalie parmi les autres études. Donc des taux de rétention importants, mais des études non comparatives pour la plupart. Alors, pour les critères de jugement secondaire, ils n'étaient pas présents partout. Ils étaient soit des critères de qualité de vie, je l'ai dit en introduction sur les éléments qu'on recherchait, soit la prise ou la recherche de produits ou encore l'apparition de symptômes de manque. Donc, le code iconographique, donc en vert, c'est mieux sous morphine par rapport à la comparaison s'il y en a une, hein, ou par rapport à ce que le patient avait avant comme traitement. En bleu, il n'y a pas de différence quand on passe à la morphine, et souvent c'était des patients qui étaient en comparaison à la méthadone avant leur entrée dans l'étude. Et en rouge, les résultats seraient moins bons avec la morphine. Donc globalement, il y a dans certaines études une amélioration par, sous morphine par rapport au traitement antérieur, puisque c'est chaque fois dans les études qui sont les études, les séries non comparatives, et donc les patients passent de la méthadone à la morphine et ils se retrouvent avec une amélioration de la qualité de vie, mais à courte période d'observation, une diminution de la recherche de substances et pas de syndrome de sevrage observé, même pour l'étude, à longue durée d'action. De moins bons résultats sous morphine par rapport à la méthadone, donc dans un essai qui était en crossover mais sans randomisation. L'essai ici, donc avec un symptôme de manque qui est plus important, et dans l'étude transversale ici, une comparaison à la méthadone qui montre des résultats moins favorables rapportés par les patients. Sur les autres éléments, donc certaines études envisageaient l'impact sur la conduite automobile, donc les résultats seraient moins bons sous morphine, mais c'est encore, c'est chaque fois une étude transversale. La consommation contemporaine de substances illicites, donc soit des données d'amélioration dans 3 études et autant d'études sans différence par rapport à l'autre produit. Pour les effets indésirables, eh bien, ils n'ont rien de particulier par rapport à ce qu'on peut observer sous des agonistes opiacés et simplement, dans une étude, une amélioration du nombre d'effets indésirables rapportés par les patients dans le sous-groupe qui se plaignait d'effets indésirables sous méthadone, qui était leur traitement antérieur à leur participation à l'étude. Donc, en discussion... Donc aujourd'hui, il y a environ en France, en Europe, pardon, plus de 500 000 personnes qui sont sous médicaments de substitution, dont la majorité, donc plus de 80%, sont sous méthadone et près de 20% sous buprénorphine. Les substances utilisées en Europe sont non pas variables, mais sont apparues introduites dans les différents pays de façon non harmonisée et homogène, avec des délais d'apparition qui ont été différents. Mais aujourd'hui, on dispose de pas mal de données et en tout cas, de nombreux patients peuvent bénéficier des médicaments de substitution identifiés comme étant utiles dans la prise en charge de la dépendance aux opiacés. Donc, pour ce qui concerne le sulfate de morphine, ce médicament présente, dans le cadre du traitement de substitution aux opiacés, présente une caractéristique particulière. En Autriche, il a été introduit à partir fin des années 80 et à partir de 1998, la morphine a été prévue comme étant un médicament de second choix en cas d'effet indésirable important avec la méthadone, avec une un médicament donc indiqué dans cette substitution. Utilisation dans d'autres pays européens, mais de façon moins importante. Alors, par rapport à cette situation, comparée à la méthadone et à la buprénorphine, on retrouve très peu d'études disponibles sur le sujet. On n'a pas, voire Enfin, on a peu ou pas du tout d'études dans le cadre d'un essai clinique comparatif, alors que paradoxalement, on retrouve beaucoup d'études de niveau méthodologique très satisfaisant avec l'héroïne. Et donc, à partir de ces constatations, c'est un petit peu difficile de connaître exactement aujourd'hui, avec de nombreux médicaments et de nombreuses stratégies, la place exacte du sulfate de morphine dans la stratégie thérapeutique, dans un contexte de disponibilité de médicaments évalué de façon importante. Alors en France, l'utilisation du sulfate de morphine comme TSO donc, a fait l'objet d'une évaluation par le réseau d'addictovigilance. On retrouve dans les notifications spontanées un certain nombre de situations d'utilisation du sulfate de morphine comme médicament de substitution et dans les quelques cas où il y avait l'information sur les modalités d'utilisation, ou en tout cas le recours à ce type de produit, eh bien, on retrouve des cas d'échec du TSO précédent, donc particulièrement avec méthadone ou buprénorphine. Et puis, autant de cas... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, pardon. Autant de cas sans notion d'un traitement antérieur par un autre médicament de substitution. Dans l'enquête Oppidum, une petite minorité de patients sont traités par sulfate de morphine dans un protocole de substitution, et la plupart du temps, c'est une substitution par voie orale. Donc, en conclusion de cette approche qui se voulait systématique, donc on peut considérer dans certaines études qu'il y a quelques arguments pour imaginer que la morphine par voie orale pourrait être une alternative séduisante dans le cadre d'un traitement de substitution aux opiacés, mais pour se rassurer sur ce type d'affirmation aujourd'hui, on n'a pas de données factuelles, donc très peu d'études cliniques réalisées et disponibles, et lorsqu'elles sont identifier leur qualité méthodologique hétérogène va quand même dans le sens d'une qualité qui est faible sur laquelle on peut difficilement se comparer aux autres médicaments disponibles pour lesquels on a des études de valeur beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, et ça peut être ma conclusion, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ouvre beaucoup de perspectives, une étude clinique devrait être réalisée pour être vraiment objectiver si, dans le contexte actuel de la disponibilité des autres médicaments et des autres stratégies thérapeutiques envisagées, il existe une place pour les sulfates de morphine. Merci.